Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Dans cette 21e édition de votre magazine de l'actualité théâtrale, c'est de la politique sur scène dont nous allons parler aujourd'hui. À ma droite, un président dont on dit qu'il était le plus aimé des Français, un homme qui débuta en politique très à gauche et qui fut ensuite l'ami de Pasqua, un homme pour qui Bernadette était le point d'ancrage, mais dont les yeux et parfois les mains frôlaient toutes les silhouettes féminines passant à sa portée. Vous l'avez reconnu évidemment, ce président, qui avait pour nom Jacques et Chirac comme nom de famille. Le voici de retour sur scène pour la 3e ou 4e saison consécutive grâce à Régis Vlacos qui monte son Jacques et Chirac sur la scène du Splendide. Dans une sorte de cabaret un peu foutraque et à un rythme soutenu, il montre sur scène tout ce que les décennies Chirac ont vu défiler de vrais et de faux parrains. De magouilles et de tambouilles. Ça nous a totalement réjouis. Et Régis Vlacos est notre premier invité.
Bonjour.
Un peu plus à ma gauche, nettement plus d'ailleurs, il y a un duo de sociologues. Bien connus des auditeurs d'Allegre FM, ils ont consacré leur vie professionnelle à l'étude des riches bourgeois français. Et une fois à la retraite, ils ont fait de leur science une arme au service de leur engagement politique à gauche. Ce duo sur le terrain et couple à la ville, vous l'avez certainement reconnu aussi, ce sont Monique et Michel Pinson-Charlot. Les comédiens et comédiennes David Ruelland et Béatrice Vincent, ainsi que la metteuse en scène Anne Véry, les incarnent sur scène à l'occasion de l'adaptation de Panique dans le 16e, un livre graphique signé du duo de sociologues. On y voit s'incarner la frayeur et la colère de la grande bourgeoisie à la perspective de la construction d'un centre d'accueil pour SDF dans le cher 16e. D'où le titre. On reçoit les deux comédiens et la metteuse en scène dans la deuxième partie de Radio Scénique. Pascal Duterte, bonjour. Vous aussi, la politique, ça vous intéresse, et notamment les rapports entre le pouvoir et la scène.
Oui, en effet, Eric, dans ma chronique, je vous propose de regarder comment le politique, le pouvoir, peut agir pour favoriser et organiser, voire contrôler l'activité théâtrale.
Merci. Merci Pascal. C'est en fin d'émission que nous vous retrouverons. Vous avez le programme, alors éteignez les portables, on baisse les lumières. Voici venir la 21e saison, 21e édition, on veut pas 21e saison, de Radio Scénique, votre magazine théâtral, sur Allegre FM 93.1.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Allegre FM.
Alors, on attendait un petit effet, là, qui aurait dû vous dire quelque chose, Régis Vlacos. Si je vous fais entendre, ça, là, voilà, je fais signe à Philippe Donnefort, voilà, qui va. Écoutez ça, ça vous dit quelque chose. Régis Vlacos, bonjour. Cette musique, elle vous dit certainement quelque chose,
hein ? Ah oui, les clips de campagne de Chirac, c'était quand même quelque chose. Quand on les réécoute aujourd'hui, c'est des grands moments de... On croirait de fiction, en fait, ça a été vrai, quoi. Celui-là, il est assez connu. On a aussi un clip, personne ne croit qu'il a été vrai. C'était la campagne pour la mairie de Paris en 77. C'est du grand n'importe quoi quand on l'écoute aujourd'hui.
Alors, ce qu'on a là, ça s'appelle Jacques Chirac maintenant. On a épargné les paroles. Hein. Ça date de 1981. C'était le clip pour les élections présidentielles. Et c'est vrai que c'est un petit morceau de bravoure. On l'écoute sous nos voix. Avec Jacques et Chirac, vous choisissez de nous dire tout, vraiment tout, sur cet ex-militant communiste. Amoureux d'une certaine Laurence, devenu l'homme de droite sans aucune conviction fixe, marié à une aristocrate, Bernadette Chaudron de Courcelles, dite Bernadette Chirac, voire Bernadette tout court.
Ouais. Alors c'est Florence, hein, sa fiancée américaine.
Florence,
c'est sa fille qui est décédée. Et que dire ? C'était quoi la question ?
C'est qu'effectivement, on vous avait connu dans Cabaret Louise il y a quelques années, et après celle qui dénonçait en tiers le président des riches, voici que vous abordez la vie et l'œuvre de celui qui se voulait être le président de tous les Français.
Quelle est la cohérence entre Louise Michel et Jacques Chirac ? C'est ça que vous allez me demander.
Oui,
je vous le demande, je vais vous répondre. J'avais envie d'écrire... En général, j'écris sur le lien, c'était pour moi les deux plus gros scandales de la République. C'est celle de le scandale de la Commune de Paris, quand le pouvoir de la Troisième République, les Versaillais, sont allés massacrer les Parisiens. Pour moi, c'est un des plus gros scandales de notre histoire de France. Et le deuxième scandale, pour moi, c'était la France-Afrique. Donc je m'étais dit, j'ai longtemps réfléchi à comment je pourrais écrire quelque chose de drôle sur ce... Voilà, sur ce point noir qui continue aujourd'hui, hein, qui est la France-Afrique.
Alors, c'est un point noir, mais vous commencez par une phrase qui est « Cette passion que nous avons tous en commun pour Jacques
oh, ». C'est une blague, ça, vraiment. Ça, c'est une blague de présentation. C'est pas vrai comment, c'est le présentateur qui présente le spectacle avec ça. C'est un gag, évidemment. Je ne sais pas si les gens s'y retrouvent. C'est comme quand ils demandent si les gens ont leur carte du RPR. C'est une « it's a joke hein, ».
Vous demandez ça, au public. Hein.
Oui, ça, c'est lui quand il présente ça. Mais enfin, bon, ça, c'est, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Hein.
Alors, cette dualité que vous incarnez entre nom et prénom, parce que le titre, c'est Jacques et Chirac, elle est un peu le reflet de la dualité de ses opinions affichées émouvantes et de sa pseudo-fidélité à son épouse un peu revêche.
Oui, revêche, c'est sûr qu'elle n'était pas très sympa. D'ailleurs, le film que j'ai vu par conscience professionnelle sur Bernadette, évidemment joué par Catherine Deneuve, ça ne reflète pas la réalité, parce qu'elle était très... Elle était assez méchante, il paraît, comme femme. Enfin, elle n'est pas morte encore, mais... Elle était assez méchante. Mais bon, après, ce n'est pas ça tellement qui m'intéressait. Sa jeunesse de gauche, il a vendu 4 fois l'Huma. Bon, il faut pas, voilà, il n'est pas resté très très longtemps à gauche.
C'est par ça que vous démarrez, hein. C'est par cette scène-là quasiment. Enfin, c'est son arrivée.
Non, on commence
son
par
arrivée.
Autre chose. Non, on commence par autre chose. Il y a aussi une autre scène qui présente bien dans l'enfance, qui présente un petit peu les rapports qu'il avait. Mais on ne va pas spoiler. Mais non, on présente par une scène...
Chirac à bicyclette, allez.
À bicyclette et surtout le lien qu'il a avec le personnage qui va débarquer sur scène à ce moment-là. Ça présente bien les choses. Voilà ce qui va être son avenir et toute cette jeunesse contrariée qu'il a eue puisqu'il était de gauche, son passé familial l'a rattrapé. Même il le dit hein, dans ses mémoires, il le dit que oui, j'étais de gauche. Même il était ami avec Michel Rocard et il a vraiment dit dans ses mémoires.
C'était des copains de promo.
Oui, c'était des copains de promo. Il a vraiment dit à Rocard, non, les socialistes ne sont pas assez à gauche pour moi. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a très peu de choses que j'ai inventées. Et voilà, il n'est pas resté longtemps à gauche. Il n'est pas resté longtemps avec Florence. Hein. Il s'est fiancé aux États-Unis alors qu'il était engagé avec Bernadette. Mais bon, son père...
Et Bernadette lui faisait ses fiches à Sciences Po. Hein.
Et Bernadette lui faisait ses fiches de lecture. Ça, oui, ça c'est complètement avoué dans ses mémoires. Donc,
il dit, moi, je n'ai lu aucun livre. C'est Bernadette qui me fait les fiches.
C'est ça qu'il le dit. Bon, ça m'a retenu pas mal d'anecdotes.
Hein. C'est un glandeur. En fait, est-ce que ce personnage-là, cette petite anecdote que vous citez, cette phrase un peu provocatrice qui dit, on a tous une passion en commun pour Chirac, et finalement, quand on gratte un peu, est-ce que ça ne correspond pas à une réalité d'attachement par rapport à ce personnage truculent? Finalement un personnage de théâtre. Hein.
Oui, c'est pour ça qu'on a appelé Jacques et Chirac. Il y a le Jacques, évidemment, j'ai eu pas mal... Certains pensent que c'est une pièce à charge sur Chirac, ce qui est vrai, même si j'ai mis tout ce qu'il y avait de positif. Donc voilà, ça a été vite vu. Mais tout ce qu'il y avait de positif sur son action politique et sur son caractère aussi. J'ai plein d'anecdotes où il a fait des choses assez incroyables en tant qu'humain, d'aller voir des gens, même une anecdote ou un... Il y avait l'inauguration de la gare TGV d'Aix-en-Provence en 2001. Il était venu pour cette inauguration. Il y avait deux préfets, il y avait le maire de Marseille, le maire d'Aix-en-Provence, il y avait trois ministres. Et il y avait aussi invité le cheminot CGT, puisque c'était l'inauguration d'une gare. Et Chirac qui arrive, qui serre des mains à tout le monde et qui va voir le cheminot CGT, qui s'appelait Jean-Michel. Et on m'a raconté l'anecdote et qui lui dit, est-ce qu'on peut discuter après? Alors le cheminot, c'est à Marseille. Et qui dit, oh ouais, si vous voulez, monsieur le président, bien sûr. Et Chirac a passé 2 heures à boire des bières avec le cheminot. Il a parlé à personne d'autre, quoi. Voilà, il était capable de parler des heures avec des gens tout à fait, et pas du tout avec des ministres. Donc il avait cette facette-là, très sympa, de son caractère. Et même dans les critiques qu'il y a sur la pièce, ils avaient dit, même tout ce que tu as mis sur Chirac, tout ce qui est à charge, enfin, parce que vraiment, évidemment, c'est pas un spectacle biographique, même s'il y a tout qui est vrai, qui a été raconté, là, de sa naissance jusqu'à sa mort, les principaux moments.
Tout est vrai, dans tout ce que vous...
Oui, tout est vrai. Il n'y a aucun détail, mais ça ne peut pas s'inventer, tellement c'est énorme.
Ça semble incroyable.
Son père qui le rappelle pour lui dire, maintenant tu arrêtes aux États-Unis, tu reviens, qu'il le ramène par la peau des fesses pour qu'il revienne à Sciences Po.
On va trouver un boulot de conseiller au gouvernement.
Oui, il ne voulait pas, il voulait faire autre chose. Chirac, il a eu un destin contrarié dans sa jeunesse. Donc voilà, c'est une pièce qui raconte ça, mais pas tellement ça, moi, parce que Chirac, bon, inutile de vous dire, ce n'était pas mon homme politique préféré. Hein. Il y a eu aussi il y a eu d'autres que j'affectionne un peu plus, mais comme Louis Michel ou Jaurès, par exemple, qui correspondraient un peu plus à ce qui peut permettre de construire, même dans ma jeunesse, un adolescent. C'est pas Chirac qui va. Mais c'était surtout pour parler de la France-Afrique et de la 5e République, qui est aujourd'hui en crise, et c'était pour un peu comprendre comment elle s'est construite, cette 5e République, pourquoi elle est en crise aujourd'hui, et c'est quoi la France-Afrique, puisque... Je rappelle qu'il y a un an, par exemple, à l'inauguration de Notre-Dame, il y avait, assis à côté de Trump, je crois, et à côté de Macron, il y avait Sassou Nguesso. Parce qu'on a oublié, il y en a à 46 ans de pouvoir quand même, quoi. Moins la parenthèse de 5 ans, une parenthèse de 5 ans démocratique qu'il y a eu, où la France, avec Chirac, a fait un coup d'État pour virer tout ça. Donc c'est des trucs de se dire, voilà, quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, ces dictateurs, là, il y a l'autre au Cameroun, je crois, qui vient d'être élu, qui a 92 ans. Et voilà, de se dire, qu'est-ce qu'on fait là encore ?
Alors la France-Afrique, vous l'écrivez de deux manières. La France-Afrique, vous l'écrivez, vous avez deux orthographes différentes. La France,
non, en fait...
France-Afrique, le continent, et France-Afrique.
Oui, oui, mais en fait, en général, l'argent. Elle s'écrit toujours de la même manière, mais le jeu de mots a été... Pas le jeu de mots, enfin, et ça a été conceptualisé par François-Xavier Verschab, un journaliste chercheur dans les années 2000, qui avait créé ce concept pour dire comment ça fonctionne. Et voilà, donc c'est passionnant comme histoire, c'est passionnant, et ça montre bien la face noire de Chirac. D'ailleurs, ce type avait écrit un bouquin qui s'appelle Noir Chirac, voilà, pour montrer un peu derrière son amour de l'art africain, voilà ce qu'il y a derrière, quoi. Ce sont des coups d'État et des guerres civiles.
Radio Scénique évoque aujourd'hui la représentation de la politique sur les scènes de théâtre, avec notre premier invité, Régis Vlacos, qui joue et co-interprète Jacques et Chirac au Splendide à Paris.
Jacques, tu es si drôle que tu fais rire les enfants. Ils te prennent tous pour un guignol, ils t'imitent le soir en mangeant. Jacques, tu es si grand que toutes les petites vieilles t'adulent. Elles voudraient que tu les embrasses, elles voudraient que tu les ramasses. Oh Jacques. Même les aveugles te voient, piétiner ceux que tu n'aimes pas. Oh, Jacques, tu accroches follement aux herbes des avions qui survolent tes mensonges et blanchissent tes trucs. Le soir, je suis sûr que tu ne la touches même pas. Tu lui dis bien que tu mérites, mais comme nous, elle ne te croit pas. Oh, Jacques.
Sur Aligre FM 93.1, vous êtes à l'écoute de Radio Scénique qui consacre aujourd'hui son émission à la représentation de la politique sur scène.
Je serai le président de tous les Français.
Un jeune homme se présente, il est beau.
Bonjour.
Il est grand.
Bonjour.
Il travaille au gouvernement.
Bonjour.
Il peut apporter tout son talent.
Ce soir, je pense aux patriotes.
Pompidou l'appelle depuis le Feuzer. S'il te parle un truc à Chirac, il te le fait à la vitesse de la lumière.
De nouveau, la patrie des droits de l'homme rayonnera dans le monde.
Il faut bien que les dictateurs gagnent les élections, sinon ils n'en organiseraient jamais.
Alors la France deviendra elle-même.
La France a pris, vous avez trouvé le pot à 1 million de points. Gling, 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 gling.
Je veux un État soucieux de la bonne utilisation des deniers publics.
La mairie de Paris, c'est une entreprise artisanale de blanchiment d'argent. Mais tu vas la faire passer à l'ère industrielle.
Un État qui n'isole pas ceux qui gouvernent du peuple qui les a choisis.
La République française n'acceptera jamais à sa tête d'un homme divorcé. Qui c'est ?
Qui c'est ? Je te reconduis.
Je serai le président de tout. Les Français.
Monsieur Chirac, bonsoir !
Jacques Chirac !
Régis Vlacos, précisons-le, dans Jacques et Chirac, vous n'êtes pas seul. Vous êtes, on vient d'en entendre d'ailleurs la bande-annonce, vous êtes entouré de deux comédiens, Marc Pistolesi et Charlotte Zotto, votre complice. Et à eux deux, ils campent une vingtaine de personnages, parce que Chirac, c'est pas seulement un homme, c'est un clan. Quand je dis clan...
Un gang.
À commencer par son parrain, Tonton Dassault.
Ouais, Tonton Dassault, oui, on sait pas. Ah, j'ai pas tout révélé là, mais oui, mais vraiment, c'est un homme qui lui a mis le pied à l'étrier et qui lui a... Voilà, tout ce qui est dit dans un spectacle est vrai, c'est effarant, on s'imagine pas... Ouais, je peux dire quand même que... Non, je ne veux pas le dire. Voilà, sinon, ça va
enlever des surprises. Si, mais allez-y, voyons.
Ah non, mais c'est des surprises qu'il y a dans le spectacle. Ce sont des informations, on se dit, pas vrai, c'est pas possible. Et en fait, c'est des éléments effacés de sa biographie. Parce qu'en enquêtant sur la France-Afrique, évidemment, il a une biographie qui est complètement tronquée par Franz-Olivier Gisbert, qui a fait une biographie, qui est devenu fou d'ailleurs, Franz-Olivier Gisbert, il faut voir ce qu'il a dit récemment, mais une biographie qui se veut critique, mais qui élimine complètement toutes les parties problématiques effacé de sa vie. Par exemple, il y a des mensonges comme ça sur sa vie. Il dit, moi, je suis parti de chez moi, j'ai pris un bateau pour les États-Unis au hasard, j'ai pris un cargo, je suis allé partir là-bas. Et puis, en fait, quand on enquête, ce qu'a fait François Gabriel Chave, il a enquêté, mais en fait, c'est le père de Chirac qui a appelé l'armateur du bateau pour lui demander s'il pouvait amener son fils aux États-Unis. En fait, le père de Chirac était derrière. Il fait croire à des choses comme ça, qu'il était un aventurier, qu'il est parti comme ça, alors qu'en fait, il y avait des dizaines de milliers de francs qu'il attendait. Il avait réussi à avoir une bourse par rapport à son père, enfin, des trucs comme ça. Et il raconte qu'il a Il a vraiment travaillé, il a fait des cocktails, mais bon, il avait des sous derrière. Ouais.
Régis Vlacos, vous l'attaquez à la sulfateuse, mais comment vous arrivez à trouver le bon ton, c'est-à-dire à ne pas être agressivement méchant, parce que c'est extrêmement drôle. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais je pense que même ceux qui n'ont pas connu l'ère Chirac, les vingtenaires et les trentenaires, parce que le règne de Chirac a été très très long, ils y trouvent leur compte. Qu'est-ce qui a dominé dans l'écriture? Parce que vous êtes l'auteur du texte, qui est d'ailleurs édité aux éditions du Théâtre de la Contrescarpe. Comment vous avez écrit cette pièce pour que ça reste drôle en étant assez cinglant et assez cinglant sans être acide.
Quand j'écris, c'est l'idée, c'est de faire un spectacle. C'est comme disait Brecht, d'abord le spectacle de théâtre est un divertissement, et ensuite il faut savoir saisir les sujets de société qui vont permettre de faire débat et de prendre parti. Donc d'abord c'est un divertissement. Donc j'écris, je peux pas m'empêcher de rire de l'humour. Voilà, j'essaye. Enfin,
c'est du théâtre, c'est pas du cabaret du tout.
Oui,
hein.
c'est un théâtre, donc que ce soit drôle, je peux pas m'empêcher. Pour moi, le défi de l'écriture, c'est l'humour, d'arriver à dire des choses terribles. Ce truc qu'on a entendu là, il faut bien que les dictateurs gagnent les élections, sinon ils n'en organiseraient jamais. Bon, c'est pas de moi, mais il y a des moments comme ça. Bon, c'est d'écrire de l'humour, que ce soit spectaculaire, inattendu, et que ce soit drôle.
Et surtout, alors si je peux me permettre, à aucun moment vous ne perdez votre spectateur, puisque vous faites des rappels historiques assez régulièrement.
Et aussi, moi j'ai enseigné la philo en lycée, etc. Là, j'avais terminé à... Après, j'ai dû démissionner, mais parce que je ne pouvais pas faire les deux métiers, à Clichy-sous-Bois. Donc, j'avais toujours, quand j'écrivais une pièce, me dire est-ce que mes élèves de terminale pourraient suivre ce spectacle. C'est toujours l'idée. Donc, quelqu'un, un jeune de même 15-16 ans, comme vous dites, même il y a des jeunes qui viennent, même de 12 ans, ils ne comprennent pas peut-être tout, mais ils voient un spectacle. C'est l'histoire d'un mec à qui il arrive des choses. Ça déconne, il y a de la lumière dans la vidéo, du son, de la magie. Donc, voilà, ça, c'est cette idée, c'est que ce soit déjà accessible à tout le monde, et c'est par ce biais-là que je le prends. Et après, il y a l'honnêteté intellectuelle aussi, par mes études aussi, d'arriver à lire pas mal de livres et retranscrire l'essentiel. Et donc, sur Chirac, il y a plein de Chiraciens qui viennent voir ce spectacle. Quand on l'a joué des mois et des mois à Paris, pendant les vacances scolaires, il y a des Corréziens qui viennent à Paris pour visiter Paris, donc ils voient un spectacle sur Chirac, ils y vont. Voilà, ils lisent pas le pitch, mais ils y vont. Et ensuite, j'en ai croisé quelques-uns à la sortie qui m'attendaient et qui avaient retrouvé leur Chirac. Toutes les parties polémiques et problématiques des affaires de la France-Afrique, enfin la face noire de Chirac. Bon, ça, ils s'en foutaient un peu, comme pas mal de Chiraciens. Ils disent, bon, ça, tu aurais pas dû le mettre. Mais bon, en tout cas, le Chirac, ils retrouvent leur Chirac sympa, parce qu'il fallait être honnête. Oui, il était sympa, ce mec. Il était sympa. Donc, ils le retrouvent en Corrèze, quand il fait le marché, quand il fait des choses comme ça. Donc, voilà, il est honnête, il n'est pas diffamatoire. Évidemment, il n'y a rien qui peut être attaqué aussi, à supposer qu'on le veuille. Donc, voilà, je me suis soucié de ça.
Et ces personnages qui sont autour de lui. Alors j'ai entendu une toute petite critique de la part d'un spectateur qui m'a dit on ne voit pas assez Bernadette. Hein.
C'est fait exprès d'ailleurs. Raspiengas, ce journaliste théâtral qui avait écrit pour La Croix, avait dit c'est un Jacques sans Bernadette. Ça m'importe. La vie privée ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait pas, c'est la vie privée, c'était l'aspect politique, c'est l'aspect humoristique, c'est l'aspect de la France-Afrique, de la Ve République. Après, ce que j'essayais de sortir des choses qu'on ne sait pas, de ne pas m'attarder sur les lieux communs. Bon, évidemment, il y a des lieux communs auxquels on s'attend, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais on ne l'a pas mis dans la bouche de Chirac, on l'a mis dans un jeu télévisé où on entend l'expression « vous devez saisir cette bille sans faire bouger l'autre ». Voilà, tout le monde a compris la référence, mais voilà, éviter les lieux communs, moi, donc pas m'attarder sur Bernadette, qu'on voit deux fois quand même. On la voit au début, donc elle est à sa place, voilà, au début pour le mariage, et à la fin, parce que... Elle a, après, quelqu'un m'a appris qu'elle avait vraiment dit ça. Je l'ai imaginé, mais en fait, il y a des fois, on imagine des trucs, après on se renseigne, même après que la pièce soit jouée. C'est vrai qu'elle, dans le spectacle, à un moment, elle le dit... elle dit à Claude pendant le deuxième quinquennat, arrête d'emmerder ton père, de le forcer, papa, il faut que tu te bouges parce qu'il faut que t'aies plus rien, quoi. Et là, dit, arrête d'emmerder ton père, tout ce qu'on veut, c'est de pas aller en prison, quoi. Il est président, on va pas en prison, c'est tout ce qui nous intéresse. Et le jour de la passation de pouvoir, elle a vraiment dit en privé, maintenant j'ai peur des juges. Voilà, elle a vraiment dit ça. Donc elle apparaît quand il faut, deux fois, le mariage, et à la fin, ça suffit. Le reste, il y a un film, le reste, il y a des anecdotes, et ça...
Alors, au cas où on ne l'aurait pas compris ici à Radio Scénic, on a vraiment, vraiment aimé votre spectacle. Je voudrais vous interroger sur l'utilisation de la vidéo. Vous avez un véritable dialogue entre les comédiens sur scène et la vidéo.
Alors là, je vais appeler le metteur en scène parce que c'est lui. Moi, j'ai écrit le texte.
Alors, Marc Pistolesi.
Oui, donc les deux, là, Marc Pistolesi et Charlotte Zotto, qui sont les deux comédiens qui jouent tout le gang de Jacques, qui font une performance énorme parce qu'ils se changent à 300 à l'heure derrière. Ils manipulent toute la machinerie. Donc voilà, il y a une chorégraphie sur scène. Et il y a une véritable chorégraphie aussi derrière, c'est-à-dire derrière nos écrans, où on a des dizaines de porte-manteaux où ils se changent à la vitesse de la lumière. Donc c'est une vraie performance qu'ils font de passer d'un personnage à l'autre.
Puis vous avez des décors mobiles, vous avez un décor fixe en fond.
C'est un décor théâtral en fait, c'est ce que Marc voulait. Ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir un canapé, des chaises, une table. Donc voilà, tout est suggéré, tout est moderne. Ce sont des objets théâtraux, ce ne sont pas des objets de la vie courante, quoi. Donc il y a le fameux canapé qui fait aussi bureau et qui fait aussi pupitre. Voilà, qu'on renverse, qu'on manipule. Bon, les écrans, ce sont des écrans qui sont suggérés. On peut croire que ce sont des vrais. Et puis un objet télévisuel qui est un peu bizarre, qu'on a fabriqué nous-mêmes, quoi, qui n'existe nulle part, quoi, en fait.
C'était important pour vous de faire du vrai théâtre avec du décor, avec un jeu théâtral, avec une écriture théâtrale. Hein. Il y a une progression, une progression principalement chronologique. Émaillée par les relations de Chirac avec ses très grands amis, les dictateurs.
Oui, c'était ça, c'était le sens de ce spectacle. En fait, c'est que le point névralgique, c'est en fait ces rencontres avec la France-Afrique qu'on voit, où il n'est pas du tout impliqué dès le début, parce qu'évidemment, l'idée, j'ai choisi Chirac, parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de parler de la Ve République et de la France-Afrique, puisqu'il a tout connu. Il commence en 62, quoi. Donc il commence à 30 ans sous De Gaulle et Pompidou. Il est conseiller au gouvernement. Il va jusqu'en 2007. Donc il a vraiment tout balayé la France-Afrique. Et on sait aussi que par ses réseaux de droite, quand il va être mis à l'étrier, il a connu tout le monde, et c'était un type qui était... En fait, il était sympa, parce que moi, je pense vraiment, après avoir travaillé sur lui, il réfléchissait pas trop, quoi. Il faisait des choses instinctivement. Il était instinctif, donc il va serrer la main de gens, il va parler pendant 2 heures avec des ouvriers, avec des gens, avec des Français communs, sans réfléchir. C'est plus important que je parle avec un tel plutôt qu'avec un tel, ce que ferait n'importe qui. Lui, il le faisait pas, il réfléchissait pas trop. Et sans réfléchir, il faisait aussi des bourdes énormes. Par exemple, il était super ami avec Mobutu. Il avait vraiment des rapports privilégiés avec
dictateur absolu.
Mobutu,
oui.
Qui était le pire des dictateurs, la pire raclure qu'il y ait eu, qui massacrait son peuple. Il était vraiment ami avec lui, quoi. Il était ami avec Sassou Nguesso, il était ami. Et il réfléchissait pas, ces types. Mais Mitterrand aussi, il était très ami avec Habyarimana, qui était une ordure finie au Rwanda. Donc il n'y a pas que Chirac. Donc Chirac a été responsable de cette partie. De la France-Afrique vers la fin, mais ensuite il a tout suivi, il connaissait tous les dossiers par cœur.
Régis Lacoste, il nous reste une toute petite minute pour parler de votre jeu à vous. Vous êtes Chirac, sans être dans l'imitation, vous êtes dans l'incarnation. Comment est-ce qu'on travaille avec un personnage qui était si caricaturé dans tous les sens pour le faire exister comme rôle de théâtre?
Ça, c'est grâce, évidemment, ce texte, il a pu être grâce. Il y a une mise en scène énorme de Marc Pistolesi qui joue dedans, donc il a imaginé toute la mise en scène, et aussi qui est un très bon directeur d'acteur. Évidemment, on a dit, on va pas aller dans l'imitation, ça ne sert à rien. L'incarnation, j'avais pris un coach qui m'a aidé à travailler ça, qui avait connu Chirac aussi, pour me donner des indications.
Donc votre démarche historique et votre honnêteté intellectuelle est allée jusqu'à vous faire guider par quelqu'un qui avait connu Chirac.
Oui, comme beaucoup de comédiens, on prend un coach quand il s'agit de passer. Là, j'allais jouer un personnage qui est connu, donc il y a de l'attente de la part du public. Il fallait ni l'imiter, ni se dire mais je vois pas trop Chirac. C'est quoi ce comédien? Qu'est-ce qu'il fait là? Je vois pas Chirac. Donc voilà, essayer de l'incarner, de jouer Chirac sans l'imiter, donc avec une posture du bassin. Elle m'a fait travailler sur le bassin, sur le truc d'arriver les couilles en avant. Quand elle m'a dit pense toujours à ça, même si c'est figuré, mais elle m'avait dit par exemple ça. Un truc qui m'aide aussi, c'est d'avoir peur de rien, de toujours sourire, de jamais être pris en faute. quoi, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Quand il se fait engueuler, il se fait pourrir des fois par ces deux conseillers de l'ombre. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est des petits indices, c'est des humeurs. Voilà, ce sont des humeurs à avoir.
Eh bien écoutez, Régis Vlacos, on ne peut qu'inciter nos auditeurs à aller voir ce Chirac qui est au théâtre du Splendide. On le répète, chacun y trouvera son compte, quelle que soit sa génération, même si...
Et sa couleur politique.
Et sa couleur politique. Et surtout, on verra que d'un personnage historique, on peut faire un personnage de théâtre. Régis Vlacos, merci.
Merci.
Nous sommes sacrifiés partout. Quand nous défendons le bois de Boulogne, n'oubliez jamais une chose, que nous ne défendons pas nos droits, nous défendons l'intérêt général.
De quoi on a peur ? Explique à monsieur. Pourquoi on a peur ? De quoi on a peur ?
Mais il peut y avoir des questions de sécurité, c'est ce qu'a exposé notre député maire. Hein.
Il y a plein d'insécurité dans le 16e parce qu'ils arrivent par le RER. Ils descendent à Foch et il y a des cambriolages, il y a des casses, il y a des rues dans le 16e où les voitures sont cassées, où les appartements sont cambriolés. La nuit, c'est dramatique.
On est toute une communauté de gens, on a un patrimoine entre les mains. Je m'exprime et vous poserez vos questions après, s'il vous plaît.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
À Radio Scénique, on parle aujourd'hui de la politique sur scène. Béatrice Vincent, David Ruelland et Anne Véry, bonjour.
Bonjour.
Votre spectacle à vous, il ne met pas en scène un homme ou une femme politique et pourtant, dans Panique dans le 16e, montée au théâtre, on parle que de ça, de politique. Votre spectacle, il met en scène deux explorateurs urbains, des sociologues qui ont pour nom, ben on va demander aux deux comédiens.
Elle s'appelle Monique. Pinson, Charlot.
C'est lui, Michel Pinson, c'est mon mari.
Voilà, c'est des noms qui doivent dire à l'ensemble de nos auditeurs. Alors, tout commence en 2006, parce qu'en fait, ce n'est pas une biographie des deux sociologues. Vous consacrez à un épisode de leurs études. On va demander à Anne Véry de quoi il s'agit.
Ben en fait,
ça s'appelle Panique dans le 16e.
Ça s'appelle Panique dans le 16e et cette œuvre, elle fait suite à un événement qui a lieu dans le 16e arrondissement quand ils ont voulu ouvrir un centre d'accueil pour sans domicile.
C'était la volonté de la mairie de Paris.
Ouais, mais... en 2016. Et d'ailleurs, ce lieu a ouvert. Et ça a donné lieu à une réunion publique à l'université Paris-Dauphine qui a été un véritable tollé et qui a été interrompu au bout de 20 minutes.
On en a entendu quelques petits extraits. On est allé piquer du côté de chez nos collègues de France Culture, Les Pieds sur Terre, qui avaient consacré 3 épisodes à cet événement. Et on a pu entendre successivement la préfète, d'abord Claude Goasguen, le député maire du 16e, qui était plutôt très opposé au projet, la préfète qui a essayé de parler, quelques-uns des habitants un peu effrayés par le projet. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ce récit illustré en BD qui narre une bataille rangée entre les bourgeois du 16e et la mairie de Paris, qu'est-ce qui vous a fait penser, Anne Véry, que ça pourrait devenir un spectacle ?
Bah d'abord parce que quand j'ai vu les informations et que j'ai vu ce qui se passait, j'ai trouvé que c'était extrêmement théâtral. C'est-à-dire que ces gens riches, bourgeois, qui se tiennent bien, qui portent propre sur eux et qui d'un seul coup parlent super vulgairement, tout saute. Donc le costume correspond pas au langage. Ben ça, en soi, c'est très théâtral. Et j'ai trouvé ça politiquement très intéressant.
David Ruelland, dans le récit que vous pouvez en faire, il y a des noms d'oiseaux qui fusent. Hein. On entend fils de pute, salope. Voilà.
Il y a aussi marxiste.
Alors ça, c'est le même niveau d'injure dans l'esprit des habitants du 16e. Ces deux personnages que vous incarnez, donc Monique et Michel Pinson Charlot, vous les faites arriver comme des explorateurs. Ils arrivent en terrain. Alors ils ont le sac à dos, la gourde. Ils arrivent à pas feutrer dans un terrain qu'ils
Oui, parce qu'ils sont... Enfin, elle est un peu de ce milieu-là, puisqu'elle est fille d'un procureur. Mais lui, pas du tout. Lui, vient d'un milieu ouvrier. Et par contre, voilà, ils ont passé 40 ans à explorer ce monde inconnu. Donc, c'est un peu ça qu'on représente. Effectivement, on arrive, on ne sait pas très bien où, et on ne comprend vraiment pas... Enfin, les personnages qu'on joue ne comprennent vraiment pas pourquoi le 16e est dans cet état. Enfin, il est beaucoup plus calme et feutré d'habitude. Et là, il y a une effervescence. Et ouais, vous parliez des pieds sur terre. Nous, hier soir, avec Anne, on a réécouté le deuxième épisode qui porte sur la réunion qui a eu lieu en salle des mariages de la mairie du 16e arrondissement en février 2016. Et en fait, là, on voit effectivement, on ne sait pas très bien si Goasguen est...
Alors, donc, le député-maire. Hein,
le député-maire croit vraiment à ce qu'il raconte, mais il dresse un tableau terrible. Il imagine que ça va être un camp. Enfin, il parle de camp.
Il parle de barbelés.
Des barbelés, oui. Enfin,
Anne Véry.
Il pense que ça va être vraiment explosif. Vraiment, et il fait 5 minutes sur la piscine. Vous vous rendez compte, les familles n'accepteront jamais que leurs enfants qui vont à la piscine pour faire l'initiation à la natation croisent des migrantes. Enfin,
des violeurs d'enfants.
Oui.
Potentiellement, il y avait de ça. Béatrice, Vincent, vous incarnez une Monique Pinson-Charlot tout en rondeur, en douceur, en gentillesse. Là où le Michel Pinson-Charlot est plus timide.
Ah, je sais pas. En tout cas, j'ai eu la grande joie de rencontrer Monique grâce à ce spectacle. Et c'est vrai qu'elle est formidable. Et en effet, elle est en douceur, en gentillesse, avec en même temps une pensée extrêmement percutante et pertinente. Donc c'est très agréable et c'est très important dans ma vie de comédienne d'avoir rencontré cette personne.
Alors, même question qu'avec Régis Vlacos tout à l'heure concernant Jacques Chirac. Comment on s'inspire d'un personnage ? Alors, Michel est hélas décédé en 2022, je crois, Michel Pinson-Charlot. Monique Pinson-Charlot vit toujours. Qu'est-ce qu'on fait ? On la rencontre et puis on essaye de prendre de ses postures. Vous n'avez pas du tout le même âge, hein, ni du tout la même, je dirais, le même physique. Parce que nos auditeurs vont pouvoir le découvrir au théâtre. Alors, comment on fait ?
Alors, je pense que c'était plus important de porter la parole pour nous et la pensée que d'être vraiment collé au personnage de Michel et Monique. C'était plus important de porter leur pensée, les déductions qu'ils font, les conclusions qu'ils portent sur cet événement auquel ils ont assisté.
Anne Véry. Surtout, la metteuse en scène.
On n'a pas cherché à imiter, mais ce qu'on a reproduit, c'est le duo, c'est le couple. Et ça, on le ressent très, très fort dans le spectacle. Je pense que le côté duo, compagnonnage de recherche et compagnonnage dans la vie, là, on le retrouve. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé.
Il y a très peu de moyens sur scène. Vous avez vos sacs à dos, vous avez une table qui sert à plein de choses, notamment à vous planquer, parce que ça, y a les colibets fusent et il y a les gourdes. Parlez-moi de l'utilisation qu'Anne Véry vous a, ou peut-être même vous, avez suggéré de faire de ces gourdes.
Bah, en fait, oui, on fait revivre la réunion avec, comme vous dites, très peu d'accessoires. Enfin, on a tout sur nous, hein, c'est ça. On a chacun notre petit sac, une valise dans laquelle il y a tous les autres accessoires dont on a besoin. Et chaque objet va incarner un personnage de la réunion du 14 mars.
Voilà les protagonistes, donc Sophie Broca, tous les gens qui prennent la parole pour expliquer ce que va être ce centre qui a fini par être construit. Donc l'architecte du projet, Yann Brossa, qui est en charge du logement à la mairie de Paris à ce moment-là. Enfin voilà, les protagonistes, le président de l'Université Paris-Dauphine qui accueille la réunion. Enfin, voilà, tous ces personnages sont des petits objets sur notre table.
Parce qu'Anne Véry, c'est un théâtre de récits. C'est un théâtre où les deux personnages portent le récit et incarnent avec distance. Hein. Il ne s'agit pas de les jouer, mais d'incarner les interventions des uns et des autres. Hein. Les interventions des pro-centres, mais il n'y en a quasiment pas. Mais surtout les interventions particulièrement musclées, soit des élus, soit du public.
Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était de mélanger en fait des moments d'incarnation et des moments de récit. Les moments de récit, c'est beaucoup des moments d'analyse en fait des deux sociologues. Et d'un seul coup, surgit à l'intérieur de l'analyse des moments d'incarnation qui donnent aussi le rythme du spectacle.
Alors, ces personnages-là, ces deux complices à la ville comme au laboratoire et ensuite à la militance, hein, puisque ils ont continué leur action avec d'autres moyens, comme dirait Clausewitz. Et vous entretenez cette complicité, c'est-à-dire que ces personnages-là, ils ont aussi une humanité.
malheureusement.
Oui, bah c'est vraiment le prisme pour aborder cet objet sociologique, enfin, de cette histoire de centre d'hébergement. Oui, c'est tout passe par eux, en fait. Et que Anne parle d'incarnation. En fait, c'est plus que... Ce sont des sortes d'éponges. Donc, ils reflètent les différentes personnes qu'ils rencontrent, qu'ils interrogent, etc. Mais ça passe par eux. On ressent tout à travers eux.
Et c'est vrai que lorsqu'on a rencontré Monique, elle nous a expliqué combien c'était important pour eux d'avoir été mariés pour pouvoir pénétrer le monde des ultra riches, parce que
il faut être marié dans ce milieu-là.
Voilà, être marié avec un enfant, ça leur permettait d'être invités partout et donc d'avoir accès à des endroits qu'ils n'auraient pas pu isolément, chacun chercheur au CNRS, fréquenter.
Quand on est bourgeois, qu'on sait pas quoi faire, quand dans la petite tête y a pas de lumière, on s'ennuie alors. On rêve de guerre, on manie le couteau, puis le revolver, on se met en troupeau. On marche, on est fier, à 10 contre un seul, les héros sont frères, la la la. On boit de la bière, du whisky, coca, on se sent uni. L'esprit de corps, c'est ça, un petit uniforme pour s'oublier, soit quelqu'un qui claironne. Vite, on marche au pas, on devient bête de somme, on le sait même pas, et alors on cogne sur n'importe quoi, la la la. Voilà tes moutons, major à ton tour, emploie ces garçons, parle-leur de l'amour de leur beau pays, de la nation tout court. Après nous les mouches, mettons-les au four et plaçons ensemble autour de la terre plein de fleurs de fer, recréons l'enfer, la la la. Alors pas de panique, les femmes, les enfants, les vieillards débiles, petits vieux crachotent en rouleau compresseur. Coup de poing, pam pam, on passe en gondole sur le fleuve de sang, en plus on rigole. On est maintenant de la race pure, les représentants, la la la. Un jour tout éclate, il ne reste rien, des débris s'élèvent, des fumées, un chien lèche les cadavres de ces bons à rien, mais les survivants dès le lendemain prennent la relève. La chaîne est sans fin, dis-moi donc passant, comprends-tu enfin, la la la, que quand on est bourgeois, qu'on sait pas quoi faire, quand dans la petite tête y a pas de lumière, on s'ennuie alors. On rêve de guerre, on manie le couteau, puis le revolver, on se met en troupeau. On marche, on est fier, à 10 contre un seul, les héros sont frères, la la la.
Dans Radio Scénique aujourd'hui sur Aligre FM, on s'intéresse à la politique sur scène et nos invités sont David Rueland et Béatrice Vincent qui jouent les rôles de Monique et Michel Pinson-Charlot dans Panique dans le 16e, actuellement joué les mercredis au Théo Théâtre, et Anne Véry qui en est la metteuse en scène. Alors Michel Pinson est mort en 2022, mais Monique Pinson-Charlot, elle est encore bien vivante. Qu'est-ce qu'elle pense du spectacle? C'est ce que je suggère qu'on lui demande. Monique Pinson-Charlot, bonjour.
Bonjour à tous
alors,
et à toutes.
Alors, je vais leur demander de mettre un casque pour qu'ils vous entendent mieux. Monique Pinson-Charlot, je ne sais pas comment ça s'est passé. On est venu vous voir, qui est-ce qui est venu vous voir pour vous dire, tiens, j'aimerais bien adapter ce livre avec vous? C'est David Rueland, apparemment.
Oui, il y a eu un contact avec la maison d'édition et puis qui m'a envoyé la demande. Mais comme souvent, on reçoit beaucoup de choses et on a répondu. Je pense que l'éditrice a répondu positivement, mais peut-être que son mail est tombé dans les spams. Enfin bref, un manque d'organisation de notre part à toutes les deux. Et du coup, c'est la surprise. Un jour, on nous téléphone en disant, tiens, on a vu qu'il y avait une petite affiche dans le métro, Panique dans le 16e, une adaptation de votre travail. c'est ce soir la première. Est-ce que vous voulez venir avec moi la voir ? Et nous voilà partis avec le bonhomme qui nous a appelés, Marianne, le monsieur qui nous a prévenus, et moi, au théâtre Essaillant. Et là, moi, j'ai été d'emblée, mais alors je ne peux pas vous dire subjuguée par ce travail, parce que si vous voulez, oui, c'est vraiment ce qui a fait notre originalité au CNRS de Michel et moi, c'est d'une part de travailler en couple et d'autre part de revendiquer que les réflexions scientifiques, que la sociologie puissent être conjuguées avec l'émotion artistique, avec donc le théâtre, la poésie et les dessins extraordinaires d'Étienne Lecroart, qui est pour beaucoup dans la réussite de notre...
Alors là, vous parlez aussi bien de la pièce de théâtre qui est désormais au Théâtre, hein, n'allez pas à l'Essaillant, allez au Théâtre, et de l'ouvrage qui avait été tiré de vos études. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez unique de mettre sur scène un travail sociologique, mais je dirais de manière quasi littérale?
Oui, mais c'est la magie de la communication. Nous ne nous connaissions pas et le résultat est vraiment extraordinaire de sincérité par rapport à notre travail, d'intuition par rapport à ce que nous sommes, ce que nous étions tous les deux, ce que je suis aujourd'hui toute seule. Et vraiment, si vous voulez, dans une vie où l'idéologie dominante nous impose tout le temps une pensée substantialiste, c'est-à-dire une pensée qui ne met jamais en relation les choses les unes avec les autres pour qu'on ne comprenne surtout pas l'arbitraire des privilèges de ces gens-là qui sont basés uniquement sur le système capitaliste qui permet avec les titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant. Si vous voulez, c'est super d'arriver à mettre en poésie, en théâtre, en humanité, en altérité, en une heure de temps, cette pièce extraordinaire, donc au théâtre jusqu'au 17 décembre.
Merci pour la pub. On va toujours vous garder en ligne. Anne-Véry, comment est-ce qu'on fait émerger du papier, finalement, des personnages en chair et en os? Comment est-ce qu'on arrive à trouver ce fragile équilibre entre le respect d'une pensée forte, hein, d'une pensée militante, et, comme le disait Monique Pinson-Charlot en ayant vu le spectacle, l'émotion, parce que vous êtes la metteuse en scène. Ça a été quoi votre boulot?
Eh ben, en fait, c'est dans le texte sociologique lui-même, parce qu'il y a la partie d'analyse, mais il y a toujours des témoignages à l'intérieur. Donc, en fait, on avait la double matière à l'intérieur même de l'étude sociologique. Et nous, on n'a pris que la partie vraiment sociologique. On n'a même pas pris les parties BD, parce qu'on avait peur qu'il y ait des transformations de phrases. Et on voulait que tout soit vrai. Voilà. C'est pas nous qui déformons les choses. C'est pas nous qui les caricaturons. C'est qu'ils ont des propos un peu caricaturaux.
Alors là, je vais poser une question à tous les trois, aux comédiens comme à vous, Monique Pinson-Charlot. Quand on lit, quand on entend ce qui se dit, on a peine à le croire, de la violence des propos par rapport à émanant d'une population plutôt corsetée, plutôt habituée aux bons usages. Alors, Monique, vous voulez répondre ou c'est David?
Ah ben, je veux bien, parce que quand même...
Monique Pinson-Charlot, vous étiez
tellement...
là,
c'est toi qui y étais, oui.
Vous
on a tellement partagé, on a tellement partagé de temps avec les familles de la grande bourgeoisie, y compris à des moments où il y avait des tensions par rapport à la construction d'HLM, par exemple, proche de la Villa Montmorency, à l'occasion de l'installation d'une galerie marchande de rue du Cirque, non loin de l'Élysée. Et c'était toujours, on avait bien compris que dès qu'il y avait un problème, tout se réglait dans les coulisses des cercles, dans les coulisses de toutes les institutions qui sont créées par cette classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs, afin précisément d'être mobilisée dans la discrétion pour faire valoir tout le temps, avec des longueurs d'avance, faire valoir tout le temps ses intérêts. Et donc franchement, là on était scotchés au plateau quand on s'est retrouvés donc ce 14 mars 2016, tous les deux, il y avait 1500 personnes, 700 sont restés dehors, 700 sont rentrés, dont nous, dans l'amphithéâtre. Et ce qui s'est passé était pour nous quelque chose d'incroyable.
Ouais. Maintenant, j'ai envie de m'adresser au comédien et à la metteuse en scène de Panique dans le 16e. Comment est-ce qu'on arrive à représenter quelque chose aussi intense et d'aussi immense comme l'évoque hein, Monique Pinson-Charlot, avec une forme modeste de théâtre, de comédien, quelques accessoires.
Alors Anne-Véry, David Drouin. On n'essaie pas de le représenter en fait, on l'évoque. C'est ce que je disais, en fait, tout passe par le prisme des sociologues, et ça aussi, en fait, c'est leur souvenir de ce moment incroyable. Et donc, un rien peut suffire à ranimer ce souvenir.
Et c'est vrai que c'est un peu Arte oui, Povera, enfin, il y a peu de choses sur le plateau, mais tout est utilisé, et c'est vrai que Anne a eu cette idée, Anne, notre metteur en scène, a eu cette idée qui lui est sortie un peu toute casquée de la tête. elle a eu cette intuition d'utiliser les objets du quotidien pour qu'il y ait tous les protagonistes, et que ça soit juste nous, avec nous deux, pour créer un tumulte de 700 personne, et je crois que le public reçoit quand même quelque chose de ce qui s'est passé ce jour-là.
C'est plutôt réussi. Et en supplément, on a droit à Monique Pinson-Charlot régulièrement, c'est ça ? Vous faites des bords de plateau.
Enfin, c'est des bords de plateau qui ne durent pas très longtemps, c'est une demi-heure. Mais en tout cas, pour moi, c'est un cadeau magnifique que l'équipe me fait. Parce que du coup, je sais pas, il se passe quelque chose hier avec le public. Chaque fois, on se sent... comment je vous dirais, dans quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous réunit, quelque chose qui nous fait du bien. Et les jeunes, c'est des selfies, c'est des signatures sur des petits bouts de papier parce qu'ils ont
pas...
Vous êtes
une vedette, Monique Pinson-Charlot.
Mais non, c'est pas une histoire d'être vedette ou pas.
Si, dit David Drouin.
C'est que là, il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe que nous formons au final, tous les cinq. Ils sont combien ? Trois et moi, quatre. J'ai compté Michel.
Mais c'est extraordinaire pour nous d'avoir dans la salle à la fois l'autrice et l'un des personnages, en fait, qui est un témoin vivant. C'est pas tous les jours, en fait. Je pense que quand on. Et nous, c'est extraordinaire comme cadeau ce que tu nous fais. Nous, on a vraiment un sentiment d'être utile à quelque chose. Là, on aide les gens un peu à comprendre dans quoi on évolue.
Alors, en une minute et 30 secondes, j'ai envie qu'on donne une conclusion, non pas à la pièce, mais à ce dossier. 2016, scandale absolu dans le 16e, on veut créer un centre pour SDF. Ce centre a été créé. On est en 2025. Ça a été quoi ? Sang et feu qu'est-ce qui s'est passé, vous tous les deux, alors Béatrice Vincent ?
Pas du tout. Maintenant, le centre d'hébergement d'urgence a été plutôt accepté par les riverains. Comme le dit Monique, en fait, l'entrée du centre est tournée vers le bois de Boulogne et non pas vers les immeubles magnifiques en pierre de taille qui sont de l'autre côté de la rue. Donc il y a une forme d'invisibilisation, puisque pour sortir du centre et aller dans la ville, on est obligé de passer par le bois. Mais cependant, ce centre est devenu plutôt un lieu de charité. Des gens apportent des vêtements, font de l'aide aux devoirs. Bon, voilà, c'est plutôt intégré. Ceci dit, il y a d'autres choses comparables qui veulent se construire, par exemple pour les orphelins d'Auteuil, etc. Et il y a la même levée de boucliers des riverains avec les mêmes arguments qu'à l'époque, en 2016.
Alors rappelons, Monique Pinson-Charlot, qu'avec Michel, un de vos credos, c'était de montrer à quel point la ségrégation sociale s'incarnait par la ségrégation spatiale. Rappelons que Panique dans le 16e est joué au théâtre. On a encore une possibilité de voir Monique Pinson-Charlot, donc la rockstar de la sociologie. Je crois que c'est le 3 décembre, donc encore une fois. Eh ben, écoutez, je vais vous remercier tous les quatre, Monique Pinson-Charlot. Merci Anne-Véry, merci David Drouin et Béatrice Vincent. Merci. Je rappelle que vous êtes tous les deux, en dehors de Monique Pinson-Charlot, dont on a suffisamment mentionné l'importance, vous êtes les deux comédiens et la metteuse en scène de Panique dans le 16e au Théâtre. Vous êtes à l'écoute de Radio Scénique sur Aligre FM 93.1. Aujourd'hui, on parle de la politique sur scène et c'est l'heure de la chronique de Pascal.
Musique.
Pascal, nous avons parlé du théâtre qui met en scène la politique. Vous, vous allez plutôt nous parler de la politique du théâtre ou comment le pouvoir s'en mêle.
Oui, Eric, on va se demander si l'art théâtral, l'art du spectacle, peut se passer de toute intervention politique. Cependant, nous n'aborderons pas la question de la censure. Nous regarderons comment le pouvoir, les institutions, les autorités en place peuvent agir pour favoriser et organiser, voire contrôler cette profession. Et nous nous limiterons au cas de la France, car il ne s'agit pas ici de faire une histoire mondiale du théâtre. Souvenez-vous de l'époque bénie de Louis XIV et de son ministre Colbert, créant des académies pour favoriser la création et la diriger par la même occasion. Nous avons vu lors d'une précédente émission comment le monarque avait fusionné deux troupes de théâtre alors en concurrence pour n'en faire qu'une, la Comédie française. Et lorsque bien plus tard il fut envisagé de lui donner une salle sur la rive gauche à Paris, on fit construire un nouveau théâtre sur le terrain de l'hôtel du prince de Condé, le futur Odéon. Et c'est donc un arrêt du conseil du roi qui, le 20 mars 1770, en décide l'exécution. Il se trouve que l'emplacement fut modifié pour faire plaisir aux habitants du palais du Luxembourg, entre autres le frère de Louis XVI, et les comédiens du français ayant manifesté leur désaccord, on les a menacés de leur retirer privilèges et pensions.
Bon, nous ne sommes plus sous l'Ancien Régime, mais peut-être qu'au XIXe siècle, les choses ont évolué.
Oui, bien sûr, tout change. En fait, le théâtre a toujours été lié au pouvoir, que ce soit à l'époque de l'Antiquité, au Moyen-Âge avec les mystères et les pastorales. Il y a bien le théâtre forain qui a essayé d'échapper au contrôle politique, mais au prix d'une plus grande précarité et de la nécessité de bourlinguer. Au fur et à mesure qu'il s'installe, sans bourgeoise, dirons-nous, le théâtre a besoin de moyens et avant tout, il faut un lieu où se produire. Le roi finance les comédiens pour se divertir, mais la bourgeoisie le fait aussi en payant sa place. Et puis, par l'entremise des pouvoirs publics, on finance un édifice, si possible prestigieux, qui participe au dynamisme d'une ville, à sa notoriété et par la même occasion valorise la classe sociale qui la dirige. En bref, à la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses salles ouvrent et bravent les privilèges accordés aux théâtres officiels. Après la Révolution, Napoléon Ier restreint à nouveau le nombre de salles autorisées à Paris. 4 qui sont subventionnées et 4 d'initiatives privées. Parmi ces dernières, notons le Théâtre des Variétés, créé en 1807 par Mademoiselle de Montansier, une amie de l'empereur, salle qui se spécialisera plus tard dans le vaudeville.
Donc, si je vous comprends bien, il y a des périodes où tout le monde peut ouvrir une salle et d'autres où seuls certains théâtres sont autorisés. Et puis, au XXe siècle, qu'est-ce qu'il en est de ce rapport de pouvoir ?
Eh bien, nous allons prendre un cas précis, celui du théâtre de Gennevilliers, qui s'appelle maintenant le T2G, dont l'histoire est racontée par Hugo Soubise. Et si vous y êtes allé, vous avez peut-être été surpris par l'édifice monumental qui abrite la salle. Le projet de cet équipement est lancé en 1930 par la municipalité, puis repris et modifié par le maire communiste de la ville en 1934. Il s'agit alors de proposer, parallèlement à la vie du travail, des activités nécessaires à la vie sociale et culturelle. On doit à l'architecte Louis Brossard la conception globale du complexe dans lequel se trouve le théâtre aujourd'hui. Le bâtiment abritait lors de son inauguration en 1938 à la fois une halle de marché et une salle des fêtes. La halle, à elle seule, fait un hectare de surface. La façade est imposante avec ses deux angles arrondis abritant les escaliers qui font penser au garage de l'époque. Après la guerre, la salle des fêtes accueille une activité foisonnante, aussi bien culturelle que politique. Il y a des réunions syndicales qui alternent avec des pièces de théâtre professionnelles et amateurs, des expositions temporaires et des manifestations sportives. Dans la première décennie d'après-guerre, l'histoire de Gennevilliers croise celle du Théâtre national populaire de Jean Villard. En février 1952, la salle des fêtes des Grésillons accueille une première fois la troupe de ce dernier qui présente le Cid de Pierre Corneille et Mère Courage de Brecht. L'expérience sera renouvelée plusieurs fois et les spectateurs de Gennevilliers verront jouer Gérard Philippe, Jeanne Moreau et Maria Cassarès entre autres. Dans les années 1960, la troupe créée par Bernard Sobel y mène, sous la double inspiration de Jean Villard et du Berliner Ensemble, une politique culturelle militante et une recherche d'esthétique nouvelle. En 1983, le théâtre de Gennevilliers acquiert le statut de centre dramatique national.
fin de cette 21e édition de Radio Scénique. Un grand merci à nos invités. Merci à Régis Vlacos, auteur et l'un des comédiens de Jacques et Chirac. Spectacle réjouissant, entièrement consacré à la carrière mouvementée et à la vie tumultueuse de l'ancien président de la République, entre fréquentations douteuses et petits ou grands arrangements avec la vérité. Même si vous n'avez pas connu cette époque, allez-y, c'est du bon théâtre avec de vrais morceaux de satire dedans. Et en dehors de l'auteur qui incarne Jacques Chirac, il y a Charlotte Zlotto et Marc Pistolesi qui incarnent avec talent et énergie pas moins de 20 personnages, dont Bernadette, Serge Dassault, l'inénarrable Sarkozy, alias le poissotteur, Pasqua et bien d'autres. Ben non plus, il ne manque pas d'énergie. David Ruelland et Béatrice Vincent sous la mise en scène, d'Anne Véry. Il joue les explorateurs des quartiers riches. Ça s'appelle Panique dans le 16e. C'est au Théo Théâtre et c'est plein d'inventions. Vous y verrez ce qui se passe quand on annonce en 2016 aux habitants du 16e qu'ils vont avoir pour voisinage un bâtiment accueillant des SDF. Et si vous y allez le 4 décembre, vous aurez aussi vous aurez aussi la possibilité de voir Monique Pinson-Charlot en vrai. Ma belle équipe en studio, comme en coulisses, était à mes côtés aujourd'hui. Pascal Duterte à la chronique et Pierre Demkoff qui m'a assisté et qui a concocté notre programmation musicale. En régie aujourd'hui, il y avait Philippe Donnefort et René Clancy. Merci à tous les deux. Pour plus d'informations sur notre programme et pour le réécouter, une seule adresse. Aligrefm.org, rubrique podcast, émission Radio Scénique. On se retrouvera le 7 décembre sur cette même antenne à 10h. D'ici là, allez au spectacle, c'est là qu'est la vie. Mais la vie, elle est aussi au cinéma. Et pour vous en parler sur Aligrefm, il y a Vive le cinéma qu'on retrouve à 11h, c'est-à-dire dans quelques petites minutes.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.